Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Merci d'être avec nous, bon dimanche avec RMC et bon réveil. Vous le savez, chaque samedi et dimanche, 6h, 8h, 10h, c'est le week-end des experts avec les meilleurs experts de France qui m'accompagnent. Tout à l'heure, il sera là au rendez-vous Jean-Luc Moreau pour l'automobile, 2h dédiées à l'auto. Avec bien sûr toutes vos questions auto. L'essai de la semaine, ce sera la Honda Clarity Fuel Cell, l'électrique à hydrogène. Tiens, est-ce que c'est vraiment l'énergie de l'avenir? Ça, on verra ce que ça donne dans cette Honda. Comment saisir le médiateur des assurances? Ce sera notre bon plan auto. Et puis, on évoquera aussi le durcissement des sanctions pour l'usage du téléphone au volant avec Maître Rémi Jossomme, entre autres, notre avocat spécialisé dans le monde de l'automobile. Ça sera à partir de 8h, hein, tout ça. Mais dans l'immédiat, évidemment, on poursuit notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin, qui est toujours à mes côtés. Laetitia, eh bien, nous allons maintenant évoquer les croquettes et les pâtés pour chats, j'ai l'impression.
Non, on va d'abord évoquer les chats. Est-ce qu'ils sont toujours les animaux favoris des Français?
D'accord.
À propos d'études récentes sur les chats et les Français. Et nous avons avec nous Jean-Lin Pelattan.
Ça sera après les chats.
Après. Nous avons Jean-Lin Pelattan, qui est directeur général de Royal Canin France. Royal Canin, oui, c'est pour ça que vous avez pensé.
C'est pour ça.
J'y pense maintenant. Aux croquettes. Non, on va en parler après, avec 60 millions de consommateurs, voilà. Non, là, on parle d'études sur la place du chat dans le cœur des Français. Bonjour Jean-Lin.
Bonjour.
Bonjour.
Merci. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs études ces derniers temps sur le sujet, dont celle de la FACO. La FACO, qui est la Chambre syndicale des fabricants de pet food, qui tous les deux ans enquête sur les populations d'animaux familiers en France. Alors, il y a deux ans, le nombre de chats était très supérieur au nombre de chiens, avec une tendance à la hausse. Est-ce que, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'engouement des Français pour les chats se confirme?
Et oui, en effet, notre compagnon félin, qui est présent aujourd'hui dans un foyer sur trois, continue à progresser, puisque nous avons maintenant une population féline estimée à 13 millions de chats, un peu plus de 13 millions de chats.
C'est énorme, hein.
Oui, c'est énorme, en progression de 6% sur les deux dernières années, quand la progression canine est autour de 7 millions.
Alors, on a 6 millions de plus de chats que de chiens. C'est incroyable, là, quand même.
Il n'y a pas photo, là.
Est-ce qu'on sait à quoi est dû cet engouement pour le chat? Ah bon, moi, j'adore les chats, j'adore les chiens, mais pourquoi le chat? Et est-ce que c'est une tendance européenne ou c'est particulier à la France?
C'est une tendance européenne et même mondiale. Et en France, alors un petit cocorico, nous avons la plus grosse population féline européenne est en France. Donc les Français sont des passionnés...
Des chats maniaques.
Des chats, voilà, tout à fait. Alors globalement, puisque le taux de possession en France, qu'il soit félin ou canin, est important, donc tout d'abord parce qu'il y a un vrai effet bénéfique, on le sait, de la possession animale,
oui.
Puisque c'est un compagnon au quotidien. Et sur le chat, étant donné aujourd'hui les contraintes de la vie et l'évolution de notre société, il est vrai que le chat présente des contraintes un peu moindres au niveau de l'entretien et du soin.
C'est vrai qu'il ne faut pas le sortir 4 fois
voilà,
par jour.
Exactement. Et c'est un animal qui aussi s'adapte mieux à des conditions urbaines et on sait que notre société devient de plus en plus urbaine. Alors... Et donc forcément le chat s'acclimate mieux.
Est-ce que, alors justement, quel est le profil type, comme on dit dans les études, du possesseur de chat? Est-ce que c'est justement un urbain ou un rural? Est-ce que c'est un jeune, une famille, un senior?
Alors, il est urbain, hein, puisque il y a 50% des le chat est présent dans plus de 50% des agglomérations, hein.
Ah oui.
Donc
voilà. Beaucoup de chats d'appartements, donc.
Ou qui vivent en ville, voilà. Et c'est un animal qu'on va retrouver dans les familles, et notamment quand un adulte est présent la journée. Donc il est surreprésenté lorsque l'adulte est présent dans la journée, puisqu'il ne peut pas être présent dans 50% des cas, alors que c'est uniquement 20% des cas quand il n'y a pas de chat.
D'accord. Et est-ce que c'est un chat ou plusieurs chats? Est-ce que les Français ont plutôt un seul chat ou plusieurs chats?
Alors il y a une tendance à une multi-possession, puisqu'en moyenne, alors on est découpé, mais il y a 1,6 chats par foyer.
oui, mais ça veut dire plus d'un chat quand même par foyer.
Oui, tout à fait. Et ça, parfois ça peut paraître surprenant, puisque le chat souvent est considéré comme un animal un peu indépendant. Mais oui. En fait, c'est un vrai animal social et qui s'entend très bien avec ses congénères.
Alors, vous avez enquêté aussi sur la santé des chats en France. Alors, est-ce que les chats en France sont en bonne santé? Est-ce qu'ils vont souvent chez le vétérinaire?
Alors, ils y vont, mais pas assez.
Ah.
Y a une... Quand on compare...
Si vous avez été payé par l'ordre des vétérinaires.
pas tout à fait, mais en tout cas, on encourage la prévention et on encourage le fait que les gens se rendent avec leur animal régulièrement chez le vétérinaire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire en statistique, combien de chats vont chez le vétérinaire au moins une fois par an, par exemple?
C'est un chat sur deux.
Ah oui, c'est pas assez. Vous avez raison.
Le chien, on est plutôt autour de 75%.
Oui.
Ce n'est pas assez, puisque aujourd'hui, on considère aussi que les apparitions des pathologies des chats sont parfois moins importantes ou moins visibles, plus discrètes que chez le chien.
C'est vrai.
Il est important d'avoir un suivi préventif pour éventuellement détecter l'apparition de certaines pathologies. Donc nous encourageons ces visites, puisque les gens ont plutôt tendance à aller chez le vétérinaire avec leur chat quand
c'est trop grave.
Oui. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que le chat est un animal qui cache sa maladie.
Exactement.
Beaucoup plus que le chien.
Oui.
Beaucoup plus. Est-ce que le chat coûte cher en entretien, selon vos études?
Non, puisque environ un tiers des personnes vont dépenser entre 70 et 100 euros à l'année pour l'entretien de leur chat.
C'est
donc
beaucoup,
ce n'est pas un animal qui coûte cher. Et c'est pour ça qu'il y a de vraies opportunités pour justement prendre encore mieux soin et prévenir l'apparition de certaines pathologies.
Alors, tout à l'heure, on va parler des croquettes et boîtes analysées par 60 millions de consommateurs.
Oui.
D'ailleurs, votre entreprise est très bien placée, hein, je le dis tout de suite.
Vous avez eu chaud,
hein.
Oui, tout à fait.
Voilà, les croquettes et boîtes Royal Canin sont très bien placées. Alors, juste, il y a eu aussi une enquête concernant l'alimentation des chats. Quels sont les résultats?
Alors, ce qui est important et qui va dans le bon sens, en fait, c'est que le premier critère de choix, c'est la nutrition santé. Les gens que l'on interroge commencent de plus en plus à considérer la santé de l'animal à travers la nutrition,
mm-hmm.
Ce qui était le
c'est
cas de, sur le chien depuis un petit moment, mais pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, c'était un peu moins le cas sur le chat, et aussi considéré un peu comme un chasseur, donc indépendant, qui se nourrissait par lui-même. De plus en plus, les gens considèrent qu'il est important de bien nourrir leur chat pour lui permettre de vivre bien. Sur chapon notamment, c'est important, on sait que entre la caprice.
Juste pour finir, est-ce qu'on a une idée des dépenses liées à l'alimentation pour le chat?
Alors un possesseur va dépenser environ jusqu'à 30 euros par mois pour l'alimentation de leur chat. Donc c'est
ça fait 1 euro par jour, ça va.
Ah bah c'est intéressant, comme ça on a une idée d'un budget, du budget que ça peut représenter.
Voilà, c'est intéressant.
La nourriture pour un chat.
Exactement, avant de prendre un chat.
D'accord.
Parce qu'on en a pour 15-20 ans quand même avec
c'est
un chat.
Et de plus en plus, puisque la durée de vie s'allonge.
Ah oui, c'est aussi ce que révèle votre étude.
Et oui, parce que les croquettes sont de plus en plus bonnes, c'est pour ça.
Et puis, ils sont de plus en plus médicalisés.
Et en plus.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Et câlinés, et aimés.
Merci beaucoup.
Merci, Jean-Lin.
Merci.
Directeur général de Royal Canin France. Et justement, nous allons parler des croquettes et des boîtes.
Avec la rédactrice en chef du magazine 60 millions de consommateurs, on demandera à Sylvie si elle a testé elle-même toutes les croquettes et les pâtés pour animaux. On va s'intéresser à ça dans un instant. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC, c'est le week-end des experts et on va parler maintenant de croquettes et de pâtés pour animaux, les amis.
C'est un chat, comment dire, qui est très particulier, il a son caractère et on ne peut pas l'obliger à manger quelque chose. Quand il ne veut pas, il ne veut pas.
Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on ne peut pas comprendre, nous, humains.
Une cuillerée pour la maman.
Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient pour le minou à sa maman.
Et nous avons
pour
donc
le minou à sa maman.
Laetitia, nous avons avec nous la rédactrice en chef du magazine 60 millions de consommateurs pour parler donc de cette étude.
Oui, et nous avons Sylvie Metzelar, qui donc est donc rédactrice en chef de, je vais le dire, du magazine. Sylvie, bonjour.
Bonjour Sylvie.
Alors,
bonjour.
Dans le numéro de juin, 60 millions de consommateurs a testé des aliments pour chats. Alors, 13 références pour les croquettes, 11 références pour les pâtés et sachets. Alors, je rassure François, vous n'avez pas testé vous-même les aliments, n'est-ce pas ?
Non, je me confirme, c'est vrai, pas moi-même.
Alors,
en laboratoire, oui.
Alors voilà, qu'est-ce que vous avez analysé dans ces aliments ?
Alors, dans ces aliments, on a été voir ce qu'on pouvait trouver comme taux d'humidité, comme taux de protéines, les matières grasses, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, bref, vérifier si la nourriture contient tous les nutriments nécessaires pour nos chats.
Et alors ? Alors, on va commencer par les croquettes, hein, parce que vous savez que ça, encore aujourd'hui, les croquettes sont décriées par certains. Quel est votre verdict ? Est-ce qu'elles sont ou non de qualité ?
Alors, il y a de tout, naturellement. Hein. Il y a des bonnes et des moins bonnes. Et c'est comme l'alimentation humide, d'ailleurs. Après, c'est une question de qu'est-ce qu'on met dans nos croquettes exactement.
Qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes
les croquettes, naturellement, il y a de l'amidon. C'est ça qui est très décrié, et la digestibilité pour l'animal. Et
alors, le problème, c'est que l'amidon, voilà, on a besoin d'amidon pour faire la croquette. Parce que le procédé de fabrication de croquettes, voilà, dépend de cet amidon.
Pour le process, voilà, ça dépend de ça. Alors, il y en a plus ou moins. Vous regardez notre essai dans 60 millions de consommateurs, en fait, les croquettes où il y a le moins d'amidon se retrouvent mieux positionnées. Et il y en a. Il y en a des très bonnes qui en contiennent 10-13%, ce qui est tout à fait correct. Alors, il y a l'amidon et il y a le problème des protéines végétales. Évidemment, c'est mieux d'avoir des protéines animales nos chats qui sont quand même des carnivores. C'est aussi une question d'équilibre général du produit. Et on ne peut pas dire que les croquettes qu'on a testées sont dangereuses pour nos chats, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai lobby anti-croquettes qui existe en France.
Et oui.
Il y en a des plus ou moins bonnes, mais elles ne sont pas mortelles pour nos animaux, telles qu'on peut l'entendre parfois.
Bah, les meilleures croquettes que vous avez mises en avant, elles ont 17,5 sur 20 comme note, c'est bien.
Voilà. Alors, bon, on en a aussi à 8 sur 20.
Justement,
pour équilibrer la balance.
J'ai regardé les prix, parce qu'il y a vraiment une différence de prix énorme sur les 13 références de croquettes que vous avez testées. On a entre 1,5 le kilo à 12 euros le kilo. C'est énorme, du simple au double.
Ouais.
Est-ce que le prix reflète la qualité ? Est-ce qu'on en a pour son argent, comme on dit ?
Ouais, en fait, j'ai envie de dire malheureusement oui, parce que parfois on est très content quand on fait des études sur des aliments quels qu'ils soient, de se dire bah voilà, dans des marques pas chères, on trouve des très bons produits. Là, c'est pas trop le cas. Alors encore une fois, c'est pas des produits mortels, mais plus c'est cher, plus vous avez quand même davantage de protéines animales, des bonnes protéines en fait, de bonnes huiles aussi pour enrichir. Enfin voilà, il y a quand même de meilleurs
matériaux. La qualité,
matériaux,
voilà, la qualité a un prix. C'est ce que je dis toujours, et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce genre d'essai parce que ça confirme quelque part ce que l'on dit. Parce que nous vétérinaires, on peut pas non plus tester en laboratoire comme vous faites.
Il y a de grosses différences d'écart de prix hein, entre par exemple le premier et le cinquième.
C'est ce que je disais, entre 1,5 € à 12 euros le kilo. C'est du simple au double.
Alors, mesdames, ce que je vous propose, c'est qu'il est bientôt 7h30. On revient après la météo et les infos. Et on poursuit parce que, voilà, quelle est la différence entre les aliments humides et secs? Vous verrez que même en termes de tarifs, ça n'a rien à voir, hein, Laetitia. Et puis, on rentrera un petit peu plus dans les détails de ce classement juste après la météo et les infos. À tout de suite.
RMC, 6h-8h. Vos animaux.
Laetitia. Une petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Léa qu'on a reçue par mail animaux@rmc.fr. J'ai des chatons à placer, Laetitia, j'aimerais les donner. À quel âge seront-ils sevrés et quelles sont les démarches à faire?
Alors c'est bien de se poser la question parce qu'il existe une loi, une législation sur justement la cession à titre onéreux ou gratuit des chiens et des chats. Ça veut dire que si vous donnez un chaton, eh ben il y a une loi qui vous impose d'abord de ne pas le donner avant l'âge de 8 semaines. Pourquoi ? Parce que l'éducation, le maternage de la mère est très important pour son développement comportemental. Et moi, je dirais même 9 semaines. Attendez 9 semaines avant de donner ces chatons. Ils doivent être identifiés. Ça, c'est la loi. Mmh. Et ils doivent être donnés avec un certificat vétérinaire de bonne santé. Et tout ça, c'est vous qui allez payer ça, Léa. Parce que si vous vous faites rembourser, figurez-vous que c'est considéré comme une vente. Or, si vous vendez vos chatons, vous êtes assimilé à un éleveur. Et dans ces cas-là, vous devez avoir un numéro sirène. Ah, c'est compliqué hein, quand
c'est
même.
Sûr.
Hein ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attendre 9 semaines, qu'il faut les identifier, aller voir un vétérinaire qui vous donne un certificat de bonne santé avant de les donner, ces fameux chatons. Et bien sûr, choisissez bien la famille. Hein. Bien sûr, ne donnez pas à n'importe qui ces chatons.
Comment choisir la famille, Laetitia?
Alors, ça, c'est très... Alors, le mieux, c'est de faire dans les connaissances autour de vous parce que, on connaît la famille, etc. Et voilà, c'est des amis ou des amis d'amis, c'est bien aussi. Et non pas par les petites annonces, s'il vous plaît. Non, faites par Facebook, par exemple, autour de vous, les amis d'amis, c'est beaucoup mieux.
En passant par là, qu'une communauté auquel on appartient.
Voilà,
ça.
Comme ça, vous aurez en plus des nouvelles des chatons, puisque ça sera des amis d'amis ou des amis.
Bien sûr.
Plutôt que de passer par les sites de petites annonces, s'il vous plaît.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
De retour, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Chaque dimanche, vous savez, Laetitia m'accompagne entre 6h et 8h, exclusivement sur RMC. Tout à l'heure, Laetitia, nous allons parler de la seconde édition de la fête des mares qui a lieu jusqu'au 11 juin partout en France.
Elle a lieu une semaine après la fête des mères,
c'est
voilà.
Elle a commencé hier, je crois.
Hein. Voilà, c'est quand même Laurent Baffy qui a trouvé le slogan.
Mais ça m'étonne pas,
voilà.
C'est très bien.
Voilà, et nous parlerons aussi du championnat de France des chiens de race. C'est un peu les Miss France des chiens. Voilà, qui a lieu en ce moment à Nantes et nous serons en direct de Nantes.
Voilà, ça sera dans quelques instants, mais dans les médias, Laetitia, on poursuit avec cette enquête très intéressante. Croquettes et pâtés pour chats, tous les aliments se valent-ils? Enquête qu'on peut retrouver dans le 60 millions de consommateurs de ce mois.
Voilà, et nous sommes toujours avec Sylvie Metzelaar, qui est rédactrice en chef du magazine. Alors Sylvie, on a parlé des croquettes. Parlons maintenant des aliments humides, ce qu'on appelle les aliments humides, c'est-à-dire les pâtés, les sachets. Est-ce que l'on sait exactement ce qu'ils contiennent? Parce que c'est vrai qu'il y a de la mousse dedans, des petits morceaux, mais on ne sait pas trop. Et sont-ils de qualité nutritionnelle correcte?
Alors, c'est très variable, effectivement, ça dépend quel type de morceau de viande vous avez et en quelle quantité surtout. Parce que donc, pour faire vos protéines animales, vous pouvez aussi bien avoir des déchets de boucherie avec des abats, etc., ce qui est plutôt très bien, parce que c'est très bien les abats, hein, quand un chat mange sa proie dans la nature, il mange tout, hein, la peau, les entrailles,
bien sûr.
La viande et tout ça. Donc ça c'est très bien, mais vous pouvez aussi avoir une viande de piètre qualité et avoir, vous savez, tout ce qui tient la carcasse, quoi, les cartilages, les tendons.
C'est pas très nutritif, voilà.
Ça, c'est pas très nutritif, c'est pas bon du tout, et qui est aussi de l'os, quoi. Hein. Ça se remarque bien, ça, quand vos aliments ne sont pas terribles comme ça, parce que, enfin, je vous le diriez mieux que moi, mais je pense qu'on revoit tout ça au sel de votre chat. C'est-à-dire que plus vos sels du chat sont durs, plus ils risquent de contenir de l'os dedans,
avec
des problèmes de cartilage, etc., et qui risquent la constipation, etc. Donc, ça, c'est un bon indicateur. Ou si, au contraire, votre chat a des sels très liquides, c'est que les produits qui sont à l'intérieur de vos aliments ne sont pas terribles.
Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a aussi une histoire de prix? Parce qu'on a vu qu'avec les croquettes, mieux vaut mettre de l'argent, enfin, le prix pour avoir de la bonne qualité. Est-ce que les sachets, c'est la même chose?
Alors, oui, ça l'est, mais c'est pas dans les mêmes proportions. Parce que ce que vous payez aussi dans les sachets, vous payez le packaging, vous payez tout ça. Enfin, voilà. Et puis aussi les recettes. Parce que les petits mijotés, les petites fricassées, les petits ceci, les petits cela.
Donc on paye la publicité, quoi.
Mais on paye le marketing surtout,
oui.
Je pense.
Oui, pas mal. Vous payez pas mal le marketing. Alors, vous payez le process aussi de fabrication qui est un peu plus complexe. Oui. Mais voilà. Donc, il y a des grands écarts qui sont faits comme ça. Et plus votre pâté est élaboré, évidemment, plus elle sera chère.
Alors, vous avez testé des aliments végétariens pour chat.
Ah, oui.
Alors là, voilà, ça existe, hein, faut le dire.
Alors aliments que le chat, dans son alimentation, doit manger de la viande, on est d'accord.
C'est un carnivore qu'on appelle strict.
Voilà. Alors c'est un carnivore strict.
Strict.
C'est pas comme le chien.
C'est pas comme le chien. Voilà.
Qui lui est omnivore, c'est ça?
Alors le chien est un carnivore. Un petit peu omnivore, c'est-à-dire
d'accord.
qu'il a évolué avec l'homme depuis 15 000 ans, hein, même plus, et il a un petit peu changé son régime alimentaire par rapport au loup. En revanche, le chat est un carnivore strict. Alors,
lui donner des croquettes végétariennes,
c'est un peu anti-nature, quoi.
Oui.
Et dans vos tests, alors, qu'est-ce que ça a donné, ces croquettes?
Eh ben, c'est pas bien.
vous faites plaisir.
Disons les choses clairement, c'est pas bien parce qu'il manque vraiment des choses essentielles dedans et c'est pas bien. Et enfin, on a interviewé aussi beaucoup de vétérinaires. Alors, Laetitia, vous êtes là pour me soutenir sur ce cas-là, mais aucun vétérinaire sensé et digne de ce nom va vous dire que c'est bien de prendre des croquettes véganes. Que nous, humains, choisissions le vegan, c'est absolument notre choix et en plus, on peut tout à fait bien calculer
les
apports, etc. Ce qui va pas être le cas de votre chat, il va prendre ce que vous lui donnez. Et ce qu'on a testé n'était pas satisfaisant.
Ah bah
donc
voilà.
On laisse tomber les croquettes véganes.
Voilà, c'est une hérésie de nourrir. Alors comme je dis, si vous voulez avoir un animal végétarien, prenez un lapin
et non pas
un chat.
C'est beaucoup
voilà. Alors croquettes ou pâtés? Alors c'est toujours la question. Est-ce qu'il faut donner des croquettes ou des pâtés? Alors là, vous, c'est simple. Il faut la binutrition. Vous êtes
Nous on est très adeptes de la binutrition parce que les croquettes donc, qui sont décriées effectivement, mais qui sont quand même d'un confort d'usage vraiment, c'est vraiment pratique. Et c'est aussi bien pour leurs dents, parce que les croquettes, ça leur permet de mâcher, de mastiquer, de faire travailler tout ça. C'est-à-dire avoir moins de bactéries sur les dents. Votre chat va passer moins souvent au détartrage. Vous verrez, il a une meilleure haleine quand il ne mange pas que de la pâtée. Et donc, ça, c'est important. En revanche, l'alimentation humide va lui apporter beaucoup d'eau. Parce que le problème de l'alimentation sèche, c'est que le chat a tendance à très peu boire, parce que voilà, c'est un animal qui est originaire d'Afrique, et constitutionnellement, il est fait pour résister à la chaleur et avoir peu de besoins en eau, mais il en a quand même besoin, et la nutrition humide permet d'avoir déjà une partie de ses apports nécessaires, et pour la digestibilité, on l'a dit. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment, mais aussi les trois quarts des vétérinaires, c'est de faire un pochon le matin, un pochon le soir, par exemple, d'alimentation humide, et de faire entre dans la journée des
croquettes en libre-service, quoi.
Voilà. Qui permettent de grignoter aussi, c'est bien.
Voilà. parce que le chat a besoin de plein de petits repas comme ça, mais ça permet aussi de bien surveiller ce qu'il mange, parce que le problème de nos chats, c'est d'être souvent un peu obèses, et on a un peu tendance à leur donner à la carte, donner trop, et c'est le problème d'ailleurs qu'on a hein, sur les packaging, au niveau des quantités, c'est pas très clair,
c'est vrai.
L'étiquetage est souvent assez médiocre, et on vous dit pas, attention, votre chat est stérilisé, il doit manger moins. Alors, il y a toujours on dit en quantité, mais en calories, etc. Mais voilà, faut réguler tout ça. Est-ce qu'il est sédentaire ou est-ce que c'est un chat s'amener bien sur son canapé et qui va du lit au canapé, du canapé au lit? Est-ce que c'est un chat qui sort? Voilà, un chat qui sort peut manger plus. Mais voilà, mais sur les étiquetages, on n'a pas tous ces détails et il faut faire gaffe quand même. Il faut demander conseil à son vétérinaire sur les vrais besoins de son animal.
Voilà, enquête hyper intéressante, bien évidemment si vous avez un chat, à retrouver dans le 60 millions de consommateurs de ce mois. Et puis vous avez aussi une autre enquête passionnante concernant les yaourts. Qui est très intéressante. Et on se rend compte voilà qu'il y a de grosses différences de qualité, là encore, entre les yaourts naturels et les yaourts avec des fruits, etc. Et alors, chose intéressante aussi, c'est qu'on peut consommer des yaourts même si la date limite est dépassée. Ça, c'est pratique. Et comme ça, on évite de faire du gaspillage. Voilà.
Alors, concernant les croquettes, faut faire attention parce qu'on sait que les vitamines aussi diminuent et tout ce qui est produits nobles, on va dire dans les croquettes diminuent.
Donc il faut pas acheter des sacs entiers. Vaut mieux en acheter régulièrement pour écouler les stocks.
Vaut mieux des petits sacs qu'on ouvre régulièrement que des gros sacs qu'on ouvre pendant un an. C'est sûr.
En plus, oui, elles sont moins appétissantes et les chats qui sont quand même des singles, quand votre sac est ouvert depuis un moment, ils commencent à avoir un peu moins d'appétit pour les manger.
Merci Sylvie. Merci beaucoup.
Merci Sylvie. Au revoir.
Rédactrice en chef donc de 60 millions de consommateurs.
C'est vrai que mon chat aussi dit ça. Il dit elles sont un peu vieilles les croquettes là.
Allez,
tu crois pas?
Donne-moi des neuves.
Allez, des neuves.
C'est comme Roland Garros, balle neuve, croquettes neuves. Dans un instant, on va parler du championnat de France du chien de race ce week-end à Nantes. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Allez Laetitia, direction Nantes maintenant pour le championnat de France du chien de race.
Voilà, et nous sommes avec Sylvie de Cerne qui est juge canin.
Et oui, tout à fait.
Et qui doit aller juger là, c'est ça?
Oui, d'ici une petite heure, tout à fait. Je vais commencer à juger les Yorkshire Terriers.
Alors dites-nous peu.
Bonjour
alors,
Sylvie.
Bonjour d'abord bonjour. Sylvie. Alors, le championnat de France de chiens de race, c'est un peu ce que je disais, en gros, le Miss France un peu des chiens. C'est des concours de beauté pour chiens. Alors dites-nous un peu, quel est votre rôle en tant que juge? Comment jugez-vous des chiens?
Bah, c'est un tout petit peu réductif de dire que c'est un concours de beauté. En fait, c'est des concours qui permettent de garder l'élevage canin dans la bonne voie, c'est-à-dire éviter les hypertypes, éviter, si vous voulez, les problèmes de santé qui pourraient nuire aux chiens. Bien sûr, on regarde l'esthétique du chien, mais tout le reste est concerné, la santé du chien, le caractère,
le comportement.
Le comportement.
Si un chien arrive devant vous et par exemple il veut mordre les autres chiens ou vous mordre,
c'est quelque chose qui est, voilà, absolument, c'est le rôle du juge de disqualifier ce chien, de faire un petit rapport sur le chien en pensant qu'il est ou agressif ou hyper peureux ou agressif envers ses congénères, et ça bien sûr il ne peut pas être jugé. Donc pour notre rôle, c'est bien sûr qu'il soit conforme à un standard, c'est-à-dire si vous voulez aux documents qui existent et qui est reconnu suivant les races par différents pays et homologué par la FCI. Donc nous, il doit être conforme à ce standard qui décrit aussi bien sa tête, son poil, sa construction générale, son mouvement que son caractère. Et si il diverge de ce standard sur des choses importantes comme le caractère ou comme la santé, il est bien évident que c'est un autre rôle de le signaler.
Alors, si moi j'ai un chien de race avec un pédigré, est-ce que je peux me présenter dans ce championnat? Est-ce que j'ai des chances avec mon chien?
Alors, absolument. Si vous avez un chien de race avec pédigrée, bien sûr, il faut suivre la procédure, c'est-à-dire l'inscrire dans l'exposition.
Oui. Mais, parce délais, qu'on a l'impression que c'est plutôt les chiens d'éleveurs, quoi, qui ont les coupes.
Il y a les deux. Il y a les deux. Si vous voulez, il y a les chiens d'éleveurs, mais il y a aussi les chiens qui tombent, des gens qui tombent amoureux d'une race et qui vont s'adresser à un éleveur et acquérir un chien qui va leur plaire. Si le chien est beau et que l'éleveur leur dit, en effet, votre chien vaut le coup d'aller en concours. On a plein de particuliers qui essayent pour une première fois de se présenter. Et si leur chien a des qualités, ils ont toutes les chances d'obtenir un excellent, voire même d'accéder au championnat de France.
Et qu'est-ce qu'on gagne si le chien est excellent ou champion de France?
Alors, c'est difficile à comprendre pour les gens parce qu'on a l'impression qu'ils gagnent juste une coupe ou une rosette.
Ben oui.
Mais en fait, non, c'est pas si simple que ça parce que si vous êtes éleveur, par exemple, même si c'est un particulier qui présente votre chien, vous gagnez la notoriété de votre élevage. Vous avez une réputation. Si vous voulez élever du chien, c'est aussi faire du beau et faire du bon. Mmh. Et donc, l'éleveur, sa fonction, c'est de faire connaître ça. Et lorsqu'il il arrive à être champion de France, il est reconnu dans le milieu canin comme produisant de bons sujets, comme un éleveur de chevaux, comme n'importe quel éleveur.
D'accord. Et vous avez parlé de standards d'hypertype, parce que ça aussi, c'est ce qu'on vous reproche, ce qu'on reproche un petit peu aux éleveurs, c'est que il y a des chiens qui, par exemple, je pense aux chiens à face courte, hein, comme les bulldogs, qui souffrent quand même de troubles respiratoires chroniques. On accuse aujourd'hui les éleveurs d'avoir sélectionné des chiens à problème. Est-ce que les standards vont évoluer? Est-ce que votre rôle aussi, c'est de faire évoluer les standards des chiens pour qu'ils aient moins de problèmes de santé?
Vous savez, les standards des chiens n'évoluent pas vers l'hypertype. C'est certains éleveurs qui, eux, évoluent vers l'hypertype. Mais justement, notre rôle, et le président de la Société Centrale Canine l'a encore précisé hier, et rappelé à tous les juges, car nous avons ici des juges de plus de 20 pays différents, que nous luttons contre l'hypertype, donc il ne faut absolument pas primer des chiens qui sont hypertypés. Et dire qu'un bulldog a tout le temps des problèmes de respiration chronique, ce n'est pas vrai. Il y a eu des bulldogs qui en ont eu, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas systématique.
Alors, écoutez, bonne sélection. Merci beaucoup, Sylvie.
Voilà. Attendez, je voulais simplement vous rajouter qu'on vous espérait tous un jour que les médias viennent dans une exposition canine importante pour pouvoir voir. Et j'engage tous les particuliers qui aiment les chiens à venir nous voir ou à Nantes ou dans une grande expo.
Oui,
Nantes étant la plus
bien
grande.
Sûr. Mais c'est super. Et même pour les enfants, c'est super. Il y a plein de chiens.
Oui.
C'est bien de vous voir juger. Moi, je trouve ça extraordinaire de vous voir juger les chiens qui passent devant vous. Vous les tâtez, etc. Et vous êtes super sérieux. C'est super. Et on voit quand même.
C'est très sérieux. C'est aussi sérieux que votre interview.
Mais vous savez, on voit les plus beaux chiens de France quand même. Hein. Donc,
absolument. Les plus beaux chiens de France sont à Nantes ce week-end. Nous en avons plus de 7000 à Parc de la Beaujoire. Nous en avons plus de 7000. Le parc est grand, magnifique, c'est un site superbe et les chiens sont mis en valeur comme dans un écrin extraordinaire.
Et on y sera, Sylvie. Merci beaucoup.
Merci et bonne exposition.
Et Laetitia, on enchaîne maintenant, après les chiens, avec la fête des mares. C'est la seconde édition de cette fête des mares.
Et nous sommes
joli jeu de mots d'ailleurs.
Voilà, qui est dû à Laurent Baffy. On va en parler. Nous sommes avec Marc Giraud, qui est journaliste naturaliste. On le connaît bien, puisqu'il intervient souvent dans cette émission. Il est porte-parole de l'ASPA, qui est l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui est à l'origine de la fête des mares. Marc, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Alors, c'est vrai que Laurent Baffy a trouvé ce nom de la fête des mares?
Ah bah il est malin médiatiquement, juste une semaine après la fête des mères, et la fête des mares. Donc on retient bien le truc. Donc avec l'ASPAS, on l'a soutenu. Maintenant il y a la SNPN, la Société Nationale de Protection de la Nature, qui coordonne tout ça. Il y a plus de 180 animations en France.
Du 3 au 11 juin. Voilà, c'est le concours des beautés. Alors pourquoi la fête des mares? Pourquoi c'est si important? Parce que ça nous incite aussi à avoir des mares chez nous.
Bah oui, alors ce qu'on appelle les zones humides en général, hein, les grandes, les petites, les moyennes, il y en a 90% qui ont disparu au XXe siècle quand même. Donc comme c'est une source de vie étonnante, d'ailleurs les enfants aussi, ils aiment bien voir ces petites bestioles qui nagent dans tous les sens, les libellules, les grenouilles, enfin c'est passionnant pour un enfant. Et c'est une source de vie, c'est une source... importante, ce sont des écosystèmes les plus riches. Quand il y a un peu d'eau, un peu de vase, un peu de terre, c'est là où il y a le plus de vie. Donc c'est très important.
Oui.
Donc cette fête, c'est aussi pour sensibiliser, pour qu'on ramasse les crapauds aussi au printemps, pour qu'on on soit sensible aux amphibiens, parce que bon, protéger le loup, le renard, comme on le fait, hein, c'est facile. Protéger le crapaud, c'est plus difficile.
C'est plus compliqué, oui. Surtout qu'il y en a certains qui aiment leurs cuisses, donc c'est ça le problème.
Oui, alors pour les cuisses de grenouilles, je voudrais dire, il y a un double problème. D'abord, la Chine qui avait fait beaucoup de cuisses de grenouilles a éliminé ces amphibiens, du coup ils sont envahis par les moustiques.
Forcément.
Parce que ils ont leur rôle, les amphibiens.
Parce que justement, on parlait avec François Desmarres, il dit oui mais enfin, avoir une mare ça veut dire avoir des moustiques.
Bah, en principe, il y a tous les animaux à l'intérieur qui les mangent, les larves de moustiques.
Ah voilà, il faut avoir une mare avec des.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un écosystème équilibré pour que voilà, il y ait pas.
Et de toute façon, les moustiques, on en a. Hein.
Oui, mais
avec ou sans mare. D'ailleurs, les mares ont disparu, mais pas les moustiques. Donc
oui,
ils trouveront toujours une flaque d'eau.
C'est ça, c'est-à-dire que pour que les moustiques se reproduisent, en fait, il leur faut très très peu d'eau, ça peut être une petite flaque. Simplement.
Voilà, voilà. Et ils ont leur rôle aussi, d'ailleurs, parce que chaque larve de moustique filtre 2 litres d'eau par jour, c'est-à-dire que ce sont des vraies stations de bio-épuration aussi. Donc voilà, ils ont leurs inconvénients et leurs avantages.
Est-ce que la proximité d'une mare est compatible avec un verger, avec un potager ?
Oh bah oui, au contraire, parce que ça peut attirer des insectes qui eux-mêmes vont attirer des oiseaux, qui eux-mêmes vont manger des chenilles, qui vont protéger le potager ou le verger. Donc tout ça, c'est vraiment, plus c'est riche, plus c'est protégé. Chaque espèce, on peut la considérer comme une défense immunitaire de l'écosystème. Donc plus il y en a, plus c'est costaud.
Alors, 190 manifestations sont prévues partout en France. Ça veut dire quoi ? Vous pouvez nous donner des exemples ? Et comment participer à ces manifestations de la fête aux mares ?
Alors, vous allez sur Internet, vous tapez « Fête des mares 2017 ». Et là, vous avez toutes les opérations département par département.
Ah, c'est chouette.
Donc, chacun choisit. Ça peut être du street art en pleine ville. Ça peut être, en général, c'est la découverte des mares. Hein,
ouais,
simplement, on observe les libellules avec des naturalistes. Ouais. On observe la richesse. Avec une épuisette, on regarde des choses. On les met dans une petite boîte pour voir comment ça marche. On les relâche, évidemment. Et c'est passionnant pour tout le monde. Hein.
Merci, Marc.
Merci,
Marc. Je vous en prie, avec plaisir.
Alors, la fête des mares qui a lieu cette semaine jusqu'au 11 juin. Et voilà, vous avez des manifestations un petit peu partout en France. C'est bien de découvrir les mares. Et si vous voulez en creuser une dans votre jardin, allez-y.
En hiver, mais allez-y, oui.
Voilà, en hiver.
Merci,
Marc. Et après, vous aurez des crapauds et des grenouilles qui vont chanter pendant la saison des amours. Mais c'est tellement bien.
Parfait. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain. On sera là à 6h-8h sur RMC.
Oui, je vous embrasse. Tous un très bon dimanche. N'oubliez pas, à 18h30 sur Gulli, je fais ma publicité.
On sera là, mais bien sûr, pour voir Laetitia sur Gulli.
Voilà,
on
dans l'émission 4 pattes pour une famille, une émission pour l'adoption des chiens.
Laetitia, dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui prend votre place. 2 heures dédiées à l'automobile avec vos questions auto au 32-16 après la météo. Et cette édition spéciale liée évidemment aux attentats qui ont frappé Londres cette nuit. À tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.